Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La colère en Iran après la mort de Mahsa Amini, cette femme de 22 ans arrêtée par la police des mœurs pour un voile jugé mal porté. Le président iranien a appelé les forces de l'ordre à agir fermement contre les manifestants. De nombreuses réactions de soutien aux iraniennes se font entendre. Nous écouterons Patrick Le Yarrick, ancien député européen, éditorialiste à l'Humanité. La mort d'une grande militante associative au Maroc, Aïcha Chena, militante de la cause des femmes, est décédée. Elle avait 81 ans. Regard dans votre journal sur l'aide apportée aux personnes sans abri. Nous écouterons Dominique Calonne qui est restée 8 mois sans domicile. Aujourd'hui, via l'association lilloise L'île de la Solidarité, il aide les personnes sans toit. Il sera l'un de nos invités. La France est-elle préparée à affronter la crise énergétique? Question posée à Lova Rinel, porte-parole de Pluriel. Elle était l'invitée de Loïc Barrière ce week-end. Nous l'écouterons. De nombreuses réactions de soutien aux iraniennes qui manifestent depuis plus d'une semaine contre le port du voile obligatoire. Des manifestations après la mort de Mahsa Amini arrêtée par la police des mœurs pour un voile jugé mal porté. La répression des manifestations dans des dizaines de villes a fait plusieurs dizaines de morts. Le président iranien a appelé les forces de l'ordre à agir fermement contre les manifestants. Je vous propose d'écouter Patrick Le Yarrick, ancien député européen, éditorialiste à l'Humanité.
Il y a aujourd'hui en Iran comme ailleurs, notamment dans les grandes villes, une jeunesse, et notamment des femmes, qui n'acceptent plus cette police, ni la police de la pensée, ni la police vestimentaire d'ailleurs. Et donc, elles demandent à avoir le droit de s'habiller comme elles veulent. Elles ne manifestent pas contre celles et ceux qui voudraient porter le foulard. Elles manifeste pour être libre, pour être émancipé. Malheureusement, le pouvoir en place les réprime violemment, ce qui n'est pas un grand signe de modernité ou un grand signe d'écoute de cette demande des femmes. Il faudrait que, de différentes manières, le mouvement institutionnel, le mouvement associatif, notamment à l'ONU, puisse dire un certain nombre de choses et venir en soutien à ces femmes. Certes, on nous rétorquera que chaque pays est libre de choisir son régime politique, mais pour le coup, là, il ne s'agit pas d'une liberté, il s'agit d'une confiscation de la liberté, et donc un mouvement international dont les institutions internationales seraient le bienvenu.
Ce mouvement a suscité une vraie émotion en France. On a l'impression finalement qu'on avait oublié la situation de ces femmes pendant toutes ces années.
Oui, tout à fait. On a un peu parlé de la situation des femmes en Afghanistan, donc il y a quand même des gens qui se préoccupent, sont interpellés par cela. Mais il est vrai que depuis pas mal de temps maintenant, on ne parlait plus de cette jeunesse iranienne qui veut un peu s'émanciper et de la situation des femmes en Iran et de la répression qu'elles subissent. Et donc, malheureusement, ça s'est fait au prix de la mort d'une jeune fille de 22 ans. On le déplore beaucoup, mais c'est une étincelle peut-être qui peut porter loin.
Patrick Le Yarrick, ancien député européen, éditorialiste à l'Humanité, il répondait à Loïc Barrière. La militante marocaine de la cause des femmes, Aïcha Chena, est morte. Elle était âgée de 81 ans. Elle a consacré plus de la moitié de sa vie au soutien des mères célibataires et des enfants abandonnés. Aïcha Chena avait fondé en 1985 l'association Solidarité Féminine pour la défense des droits des femmes et des enfants abandonnés. Pour son engagement, elle avait notamment reçu le prestigieux prix Opus en 2009, puis le prix de la Banque mondiale en 2015. Des combats ont eu lieu la nuit dernière en Libye, des combats entre groupes armés à Zaouia, une ville de l'ouest du pays. Les violences ont fait au moins 5 morts et 13 blessés. La justice algérienne a confirmé en appel la condamnation à 10 ans de prison ferme du patron du groupe de médias privés algérien Ennahar. Anis Rahmani est condamné pour des faits de corruption. Il était poursuivi notamment pour mauvais usage des fonds d'une SARL relevant du groupe Ennahar. Une fusillade a eu lieu dans une école du centre de la Russie. Un premier bilan fait état de 6 morts et 20 blessés, dont des enfants. Le tireur s'est suicidé. La coalition nationaliste a remporté les élections législatives en Italie. Le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, dirigé par Giorgia Meloni, est arrivé en tête du scrutin. Un fait sans précédent en Italie depuis 1945. Giorgia Meloni a revendiqué la direction du prochain gouvernement, une victoire saluée notamment par l'extrême droite en France. Gros plan sur l'aide apportée aux personnes sans abri. Dominique Calonne est resté 8 mois sans domicile. Il a commencé par trouver un logement à Lille grâce au Fonds de solidarité pour le logement. Aujourd'hui, via l'association Lille de solidarité, il aide les personnes qui sont dans cette situation et qui, souligne-t-il, sont oubliées par la société. Entretien avec Dominique Calonne.
Nous, l'essentiel pour venir en aide aux personnes en difficulté, c'est les maraudes. C'est-à-dire qu'on prépare des maraudes et ensuite on a des points fixes et on va sur les chemins pour rencontrer les personnes sans abri et leur donner un peu de manger, les orienter vers les différentes associations pour justement qu'elles retrouvent un toit, etc. Depuis 2020, grâce à la mairie de Lille, on a un bâtiment qui est prêté, on a un accueil de jour. Donc un accueil de jour, on est ouvert tous les matins de 8h30 à 12h30. C'est là qu'interviennent les contrats civiques et les personnes peuvent venir donc pour charger leur téléphone, prendre une douche et on les oriente et aussi peut-être on fait quelques activités comme des journées où on fait des crêpes, ils peuvent se divertir, il y a un baby-foot, etc. pour dire que les personnes... Elle passe un bon moment avant de retourner à la rue.
Et c'est ouvert donc à tout le monde. Et cela se trouve au 50 boulevard de Strasbourg à Lille.
C'est une ancienne école et on a prêté pendant 5 ans parce qu'à côté, ils sont en train de faire le bâtiment que ça va être la cité administrative qui va déménager. Donc là, pendant 5 ans, ils font les travaux. Et après 5 ans, dans 5 ans, on ne sait pas où on va aller. Pour le moment, ce n'est pas pérenne. Hein. C'est prêté par la mairie de Lille.
Lorsque vous rencontrez ces personnes qui n'ont pas de toit, quelles sont leurs principales demandes?
Déjà, leur principale demande, c'est d'avoir à manger et d'avoir à boire. Donc là, on donne un petit café, puis ce qu'on prépare, soit des sandwichs, des desserts, etc. Et ensuite, surtout pour l'accès aux droits. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes à la rue qui n'ont pas accès aux droits. Donc on leur donne les indications pour justement faire un accès au droit. Beaucoup de sans-abri, malgré qu'ils peuvent avoir le RSA et tout ça, ils ne l'ont pas. Ils ne savent pas qu'ils peuvent l'avoir. Donc nous, on les oriente et après, on les oriente vers le 115 pour justement qu'ils appellent le 115 et essayer d'avoir un centre d'hébergement ou être à l'abri.
Vous constatez que c'est une majorité de personnes sans-abri qui n'ont pas accès aux minimums sociaux auxquels ils ont droit?
Oui, puis c'est tellement compliqué à faire que beaucoup de personnes sans abri commencent l'accès au droit, mais elles ne finissent pas. Il y a tellement de papiers à avoir, etc. Et maintenant, étant donné que tout se passe pratiquement sur Internet, c'est un grave problème parce qu'ils n'ont pas accès à Internet, les personnes à la rue.
Et grâce à vos actions, des personnes peuvent désormais bénéficier des minima sociaux.
On leur donne les renseignements et à l'accueil de jour, on a un point Internet. Donc on peut faire leur dossier et tout ça avec eux, quoi, on les oriente. Parce qu'il faut savoir que nous, on peut seulement qu'orienter les personnes parce qu'on n'a pas de travailleurs sociaux, nous. Hein. On n'a pas de subvention par la DES maintenant, donc l'ancienne direction départementale de la cohésion sociale. On a seulement une subvention pour nos maraudes et par la mairie de Lille pour aussi la nourriture en la cuisine centrale. Mais on travaille beaucoup avec des dons des personnes.
Et vous vous déplacez donc régulièrement dans les rues de Lille pour aider ces personnes?
Oui. Généralement, c'est le mardi et le jeudi. Ensuite, pendant la période du confinement, on continue aussi, on fait de la distribution aussi pour les étudiants. Parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup d'étudiants qui étaient dans la difficulté aussi. Donc on essaye de faire des distributions pour les étudiants.
Vous constatez une... accentuation de la précarité, cela fait une dizaine d'années que vous faites cela, oui.
Oui, et là surtout avec le confinement et tout le monde, on voit beaucoup d'étudiants qui galèrent aussi au point de vue nourriture, etc. Donc on leur fait distribution aussi. Et avant on allait aussi sur Calais faire des distributions aux migrants, mais là on a arrêté parce que ça devient très difficile à Calais. Parce que la mairie, elle ne veut plus qu'on distribue à manger ni à boire aux migrants. Il est interdit de donner à manger et à boire aux migrants maintenant sur Calais.
Vous discutez bien entendu avec les personnes sans abri que vous rencontrez. Vous ressentez ce besoin d'échange?
Oui, mais même les personnes en centre d'hébergement, elles ont besoin d'échange. Moi, comme je fais partie du Conseil national des personnes accueillies et accompagnées, pendant le confinement, on n'avait pas de réunion, on n'avait rien du tout. Les personnes, ils se demandaient si ça allait continuer. Oui, ils ont besoin de beaucoup d'échanges, les personnes à la rue.
Le regard porté sur ces personnes, c'est aussi une chose très importante.
Disons que le regard, ça change un peu. Avant, les personnes, quand on était à la rue, comme moi j'y étais, on était mal vu et tout ça. Maintenant, ça change un peu, mais c'est toujours la même chose, il y a toujours les préjugés. Hein. Vous êtes à la rue, vous êtes alcooliste, vous êtes fainéant, vous êtes voleur, il y a un regard vraiment des autres personnes très difficile à concevoir. C'est pour ça que les personnes ont besoin d'échanges et tout ça, parce que même quand on est à la rue, tout ça, il y a une personne qui passe, qui nous dit bonjour, qui sourit et tout ça, ça nous donne un peu d'âme au cœur, on va dire, c'est mieux.
Vous dites que vous avez vécu cette situation, vous avez été sans abri. Qu'est-ce qui était le plus difficile?
Le plus difficile, c'était le soir après 17h, 17h, 18h. Quand vous voyez que toutes les enseignes s'éteignent et tout ça, là, vous devez vous débrouiller. Parce que dans la journée, vous avez quand même les accueils de jour, vous pouvez vous déplacer. Sur l'île, il y a pas mal de maraudes et tout ça, où vous pouvez avoir à manger, etc. Les accueils de jour et les travailleurs sociaux, il y a tout, donc vous pouvez discuter tout ça, mais c'est le soir qu'on est seul. Et moi, je préférais pas me mélanger avec les autres, je préférais être seul. Il y a beaucoup de personnes à la rue qui préfèrent être seules, s'isoler. Pour question de sécurité et tout ça, on préfère être seul. Enfin, c'était mon cas. Hein.
Et vous la ressentiez, vous, cette insécurité?
Ah ouais. Bah ouais, justement, le soir, il fallait trouver un endroit pour dormir et tout ça. Moi, j'avais trouvé un parc et tout ça, mais... Enfin, dormir, disons, se reposer, quoi. Parce qu'on dort pas, hein. On dort peut-être une heure, mais au moins de bruit, au moins de trucs, on est réveillé. Et le matin, bon, quand la circulation, elle reprend tout seul, on est réveillé, et là, on marche beaucoup, hein. On marche beaucoup. Jusque, justement, que les accueils de jour ouvrent.
Et vous craignez de vous faire dérober également les rares affaires que vous possédiez?
Dérober, vous savez, quand on est à la rue, on n'a pas grand-chose, mais enfin, on a quand même nos papiers, etc. Ça. Et surtout pour les bagarres, ou les personnes alcoolisées, et tout ça, et pour les contrôles, beaucoup de personnes pour le contrôle de police, là, sur l'île. Avant, vous pouvez encore mettre des tentes et tout ça, mais maintenant, les tentes, elles sont systématiquement détruites le lendemain matin, hein. Donc il faut se balader avec sa tente, etc., pour la planter le soir. Hein.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes sorti de cette situation?
Ben, j'étais à la rue il y a une dizaine d'années. Il faut absolument faire le 115 pour entrer en centre d'hébergement. Et le 115, c'est très difficile à avoir. Du moment où vous êtes une demi-heure, trois quarts d'heure, qui ne répondent pas, surtout en période d'hiver. Et pour toujours avoir les mêmes réponses, ben non, il n'y a pas de place, au téléphone est demain. Donc j'ai laissé un peu tomber, j'ai dit ça sert à rien, puis après je me suis quand même repris un peu en main, j'ai dit bon bah il n'y a pas, il faut que je sorte de là. Donc j'ai refait le 115 et au bout de 2-3 jours ils m'ont trouvé une place en centre d'hébergement. Et là du moment que j'étais en centre d'hébergement, après ça a été, puisqu'on est suivi par travailleur social, on peut faire ce qu'on veut entre guillemets, mais on peut se déplacer, on peut aller dans les bureaux, on peut aller n'importe où, et là ça m'a sorti de mon parcours à la rue.
Et vous avez choisi d'aider les personnes qui sont dans cette situation.
J'ai décidé ça parce que moi, quand je me suis retrouvé à la rue, je ne savais même pas ce que c'était le 115. Je me suis présenté directement au centre d'hébergement, je ne connaissais rien. Donc à force d'être à la rue et puis au centre d'hébergement, j'ai appris tout ça. Donc c'est pour donner des bons renseignements et aider les autres personnes, puisque j'ai été aidé par les personnes, pour justement aider les personnes qui se trouvent maintenant dans le même cas où moi j'ai été.
Une situation qui touche de très nombreuses personnes en France, est-ce suffisamment mise en lumière ou alors avez-vous le sentiment que ces personnes sont aujourd'hui les oubliés de la société?
Bah oui, ils sont oubliés, hein, parce que je ne sais pas, mais là il y a eu les élections, tout ça, on n'a pas parlé beaucoup de personnes à la rue, ainsi que les politiques disent qu'il n'y a plus de personnes à la rue, mais il y en a de plus en plus. Disons qu'il y a de plus en plus de personnes à la rue et il y a de moins en moins de centres d'hébergement qui ouvrent. Donc la situation, elle reste pareille. Parce que maintenant, le gouvernement, ce qu'il fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est la politique du logement d'abord maintenant. C'est mettre directement les personnes à la rue en logement. Mais il y y a des personnes, ça fait 5 ou 10 ans qu'ils sont à la rue, moi j'estime que vous ne pouvez pas les remettre en logement directement. Il faut qu'au départ, elles vont en centre d'hébergement et qu'elles apprennent à vivre, entre guillemets, normalement. Reprendre les habitudes et tout ça.
C'est ce que vous nous confiez lors d'une précédente interview. Ah oui, lorsque vous avez eu votre premier appartement, vous ne dormiez pas dans votre lit, mais par terre.
Il y en a beaucoup, parce que avant je faisais partie d'une autre association, et il y a beaucoup de personnes, on leur trouvait un logement, ou même les personnes, elles dormaient sur... ou alors les personnes, elles dormaient à la rue, elles donnaient les clés pour faire dormir les personnes qui étaient à la rue. Oui, c'est difficile, une fois qu'on a été à la rue, de reprendre vie dans un appartement à cause de l'espace et tout ça, on n'est pas habitué. On n'est plus habitué.
Dominique Calonne, bénévole au sein de l'association lilloise Lille de Solidarité. Après plusieurs jours de tempête médiatique et politique, Julien Bayou démissionne de ses fonctions de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et de président du groupe ELV à l'Assemblée nationale. Le député écologiste est accusé de violence psychologique par une ex-compagne. Julien Bayou assure que cela ne remet en question ni son mandat de député, ni son engagement présent et à venir. L'invité de Pluriel le week-end dernier était Lova Rinel, porte-parole de Pluriel, mouvement proche de la majorité présidentielle. Le gouvernement a-t-il engagé la bataille contre le réchauffement climatique? La France est-elle préparée à affronter la crise énergétique? Extrait de cette émission.
Est-ce qu'on est bien préparé par rapport à la hausse des factures? Finalement, est-ce que les gens ont les moyens de payer? Et ça, je veux dire, vous avez plusieurs réponses. Il y en a qui sont oui, d'autres n'ont pas envie, d'autres pourquoi pas c'est le jeu. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on est bien préparé politiquement? Moi, je pense que, au-delà de la question de la crise ukrainienne, il était temps qu'on pose la question de l'abondance. Ça fait combien de temps que le GIEC, mais ça remonte pas à Emmanuel Macron, ça fait depuis quasiment 40 ans que le GIEC formule des propositions, que les politiques font les sourdes oreilles, et que maintenant, on en revient. Alors, on a démantelé Fessenheim, on va remettre Fessenheim, Fessenheim marche pas, comment on fait? On voit bien le problème du parc nucléaire, parce qu'on est sur cette question-là en France. On voit bien qu'en Allemagne, c'est autre chose. Donc, il y a aussi des réflexions internationales sur quelle énergie doit-on utiliser. Je crois que c'est une réflexion que nous, Français, on serait légitime à, on va dire, avoir en premier. Je pense qu'il ne faut pas oublier les autres continents. Parce que la planète, elle appartient à tout le monde. Là, je pense à mes... vous connaissez mes engagements sur l'Afrique. Je pense au continent africain, qui n'est pas du tout préparé sur le plan énergétique.
Lova Rinel, porte-parole de Pluriel, mouvement proche de la majorité présidentielle. Elle était l'invitée de Pluriel le week-end dernier. Émission présentée par Loïc Barrière, émission que vous pouvez écouter sur votre site internet radioorient.com. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient à 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 17h30 pour votre journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est 12h18.